nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Henri Saint-Gore, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie, au 23 Quai de Conti. Canal Académie, la première radio francophone au monde qui diffuse sur Internet. Vous êtes Henri Saint-Gore, ambassadeur honoraire, président du Centre international francophone d'échange et de réflexion. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui dans ces locaux, c'est pour parler de votre oncle, Léopold Sédar Saint-Gore. Mais je crois qu'avant de commencer sur son enfance, ses études, donc une émission de 45 minutes sur laquelle vous allez pouvoir nous parler de ce sujet, je pense que vous voulez dire quelques petits mots.
Oui, je suis ému, évidemment très honoré que Canal Académie ait choisi de m'interviewer après d'autres intervenants dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Léopold Sédar Saint-Gore, ce chant de l'africanité, comme vous le savez, est cofondateur de la francophonie à laquelle son nom reste indissolublement lié. Divers hommages ont été rendus et continuent de l'être de par le monde et particulièrement en France. Il était donc naturel que Canal Académie célèbre à son tour cet humaniste qui a incarné dans son existence l'idée d'une civilisation de l'universel, d'une culture se nourrissant de ce qui est nouveau et différent. Je n'éprouve pas de difficulté étant donné nos affinités culturelles et familiales qui nous rendent proches, malgré la différence de génération, à vous parler de son enfance, sa formation et son cursus professionnel, avant de vous donner, comme vous me l'avez demandé, un éclairage sur ses rapports avec les femmes.
Une émission que nous réaliserons un peu plus tard.
Exactement. Mais j'aimerais, si vous me le permettez, lui exprimer ma gratitude pour la part déterminante qu'il a prise dans ma formation intellectuelle et ma vision du monde, fier comme lui de mes racines ancestrales et paysannes. Son exemple m'inspira l'admiration que l'on devine, sa passion du latin et du grec devint mienne dans le secondaire et plus tard, après mes études commerciales et juridiques, j'ai pu bénéficier de son enseignement, notamment à l'École nationale de la France d'Outre-mer, où il dispensait des cours de civilisation et de langue africaine avant de devenir son ambassadeur dans divers pays d'Amérique et du bassin méditerranéen. Me voici aujourd'hui devant votre Canal Académie, retraité et comme vous le disiez tout à l'heure, président du Centre international francophone d'échange et de réflexion, une association qui constitue un lieu privilégié de débat et d'action.
Alors, Henri Saint-Gore, comme vous le disiez dans ces quelques phrases, justement, donc nous allons pouvoir aborder avec vous son enfance, ses études. Votre maman, je crois, même a participé à l'éducation de votre oncle. Donc, nous allons pouvoir, avec vous, revenir en profondeur sur ce sujet. Alors, on remonte le temps.
Ben, remontons avec plaisir le temps. Je vous rappellerai quelques points de repère.
Bien sûr.
Savoir que Saint-Gore est né le 9 octobre, serait né le 9 octobre 1906 à Joal.
Serait
parce que depuis quelques années, on est en train de rétablir en face qu'on considère comme étant une erreur. Il paraîtrait qu'il serait né en août et non pas en octobre. Il y a eu des problèmes de déclaration d'état civil et certificat de baptême qui ne concordent pas. Mais pour le moment, donc, nous en sommes à sa naissance du 9 octobre 1906 à Joal, qui est une bourgade fondée au 15e siècle par les navigateurs portugais sur la petite côte, une zone située à une centaine de kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal, dans une famille d'origine sérère et de religion catholique.
Ce qui n'est pas commun.
Ce qui n'est pas commun parce que, comme vous le savez, les 9 dixièmes de la population sénégalaise sont musulmanes. Bon, Saint-Gore, baptisé, rejoint sa mère à Nilan Baroum, à Dilor, qui est le village de l'intérieur, à une trentaine de kilomètres de Joal, où réside son père Djogoy, propriétaire terrien et riche commerçant qui compte des rois parmi ses familiers, entre autres le souverain du royaume du Sine. Je dois dire également que Saint-Gore est né à Joal, mais moi aussi je suis né à Joal.
Vous êtes également né à Joal?
Je suis né à Joal, donc dans cette même bourgade. Et c'est dans cette région du Sine dans l'ambiance traditionnelle de l'Afrique d'hier, que son oncle maternel, car c'est très important, dans le système sérère, c'est l'oncle maternel et non pas l'oncle paternel qui assure l'éducation au fond des enfants. C'est une région donc de matriarcat encore, et donc son oncle maternel peut s'appeler Tokowali, et il lui fit découvrir les rites animistes qui influenceront profondément sa vie et sa pensée. Il le dit lui-même, mon enfance a beaucoup joué dans ma formation ultérieure sur le plan à la fois politique et sur le plan culturel.
Et rites animistes et religions catholiques pouvaient s'imbriquer.
Ça faisait des choses de syncrétisme religieux. Dieu n'aimait pas beaucoup le terme de syncrétisme religieux, mais de symbiose.
Symbiose.
À l'âge de 7 ans, donc, Senghor, la mission catholique de Joal, lui apprend à parler le Wolof et quelques mots de français. Et un an plus tard, celle de Ngazobil devinrent successivement ces deux points d'attache. Ngazobil est un petit village qui est à 6 km de Joal, où se trouvait justement le petit séminaire.
Alors, il faut savoir que la langue maternelle n'est pas le Wolof, c'est
non,
le Sérère.
C'était le Sérère. Alors c'est pour ça qu'il a appris le Sérère et quelques mots de français. Alors un de ses frères aînés, mon père René, et son épouse Hélène de Joal, qui fut pour lui une seconde mère, une éducatrice et sa confidente, l'avait quasiment adopté après ses expériences bucoliques, parce qu'il battait toujours la campagne à la recherche des bois sacrés et pastorales. C'était son éducation parallèlement, ma mère donc, son éducation parallèlement à l'influence qu'exerçait sur lui la congrégation des Pères du Saint-Esprit. À cette époque, le professeur Senghor, tous les enfants rêvaient donc de devenir prêtre.
Ce qui n'est pas commun.
Ce qui n'était pas commun. Non, parce que, il était né d'une famille catholique. Son père était catholique, mais pas très pratiquant. Sa mère était elle, catholique. Et son père était, quand je dis pas très pratiquant, c'était un propriétaire terrien, mais un propriétaire terrien qui avait pas mal de possibilités et qui était peut-être subissant l'ambiance du lieu polygame. Il avait donc, au total, eu 4 femmes de son père.
Donc plusieurs frères, demi-frères, demi-sœurs.
Plusieurs demi-frères, et c'est pour ça que j'ai dit que mon père et sa femme, ma mère Hélène, se sont occupés de lui. Parce que mon père était commerçant dans la petite côte, il avait aussi des moyens, et donc lorsque le père de Senghor l'a envoyé à la mission de Joal, il y a trouvé naturellement mon père. Et ça a été un second foyer qui s'est ouvert pour lui. Donc à 16 ans, Senghor, il reste à Ngazobil, et il part pour le collège séminaire Liberman de Dakar.
Dakar.
Où le distingue ses dispositions pour le français, le latin et le grec, de préférence aux mathématiques et aux sciences en général.
Il était plutôt littéraire.
Il était plutôt littéraire. Ses études secondaires achevées, car finalement il y est resté quand même quelques années, il a passé le bac très tard, parce qu'il a commencé à rentrer au fond à 16 ans, il a commencé à aller au collège des Liberman, donc faire ses études secondaires à 16 ans, alors qu'en France en général on allait beaucoup plus tôt à l'école. Mais ses études secondaires donc achevées, il gagne Paris en 1928.
Donc il a son bac.
Il a son bac. Il gagne
Paris.
Il
réussit brillamment.
Il réussit brillamment. Et il est titulaire d'une demi-bourse.
Alors une bourse, pas parce qu'il manque de moyens, mais parce que justement c'est pour le récompenser
pour
de ses résultats.
Mais il a eu qu'une demi-bourse parce qu'on estimait que son père avait les moyens et que donc il était tout à fait normal qu'on l'aide, qu'on l'encourage à lui donner une demi-bourse. Et le complément de sa bourse a été fourni par mon père. Mon père étant commerçant et étant aussi ayant des moyens, donc il n'a pas hésité à compléter la bourse qu'avait Senghor, en sachant très bien les difficultés qu'il aurait eu s'il était allé en France avec une demi-bourse, même à l'époque.
Ce n'est pas son propre père qui a participé?
Non, ce n'est pas son père. Son père était un propriétaire terrien, commerçant, faisant des affaires avec les maisons de commerce de l'époque, Bordeaux, etc. Et mon père faisant aussi un peu la même chose, étant lui pas propriétaire terrien, mais étant un commerçant, travaillant avec différentes maisons. D'abord, au départ, il était comptable dans ces maisons, et ensuite, il s'est installé à son compte et travaillait avec ses maisons de commerce. Donc, Senghor, à 22 ans, rentre en Hippocagne. Il arrive en France, il trouvait qu'évidemment, en arrivant en France, il a trouvé Paris pas très, très beau.
Alors, voilà, c'est ça, c'est qu'il arrive, Paris c'est... L'image qu'il pouvait en avoir s'effondre.
Exactement. Il avait affaire à une ville sombre, grise, il pleuvait, et il était profondément déçu parce qu'il arrivait d'un pays de soleil, c'était un solaire, et donc il a été un peu déçu. J'ai fait la même expérience. Quand je suis arrivé aussi en France pour mes études, après avoir quitté le Sénégal, je suis arrivé à Marseille, il faisait un temps extrêmement gris, il pleuvait, et je me suis dit, c'est ça la France, on rêvait d'une France.
Et pourtant vous étiez à Marseille.
Oui, j'étais à Marseille. français et pourtant j'avais appris à connaître et à aimer à travers mes livres. Quoi qu'il en soit, Saint-Gourdon arrive à Paris, il a alors 22 ans, il rentre en Hippocagne.
Avant d'entrer en Hippocagne, il passe quand même quelques semaines à la Sorbonne au départ.
Oui, il a été quelques semaines à la Sorbonne, mais il n'y est pas resté.
Il était un peu perdu,
il a donc décidé quand même de faire Hippocagne et de rentrer donc au lycée d'Ulgran. Et son objectif, évidemment, était de réussir son concours d'agrégation, parce que c'était quand même une chose très importante, on parlait des agrégés, et lui voulait être agrégé de grammaire.
Mais son père, il voyait pour lui plutôt une carrière juridique, non ?
Son père s'est dit, bon, il va aller à l'école des Blancs, et que certainement, savait qu'il était un garçon brillant, eh bien, il nous fera honneur. Mais il ne voyait pas du tout, d'abord parce qu'il n'avait pas cette formation, on ne pouvait pas savoir ce que signifiait l'agrégation à son niveau. Mais Saint-Gor, lui, voulait être agrégé de grammaire, en disant que étant agrégé, il aura la possibilité ensuite de rentrer au Collège de France. C'était son rêve.
Voilà, rêve ultime, c'était d'entrer au Collège de France.
C'est ça. Alors, ces années de 1928 à 31 ont été pour lui des années vraiment décisives. Et on ne peut pas passer sous silence, évidemment, l'influence de ses camarades de Cagnes. Il y rencontre des Antillais, dont Louis Achille Aimé Césaire, un Vietnamien, femme d'Huit Kiem, et les Européens, notamment Georges Pompidou, qui le guide dans ses lectures et dans la découverte du Paris culturel français.
Alors c'est vraiment cette époque-là, un bouillonnement culturel pour Léopold Sédar Senghor.
À l'époque, Senghor en parle beaucoup de cette vie qui lui plaisait beaucoup et où il a eu l'occasion, durant cette période de 28 à 31, il a eu l'occasion de rencontrer la crème des crèmes des intellectuels français. Il a donc, c'était l'époque des pionniers tels que Pablo Picasso, André Breton, Tristan Tzara, dont un des petits-fils est marié avec une des nièces de Senghor et qui habite Paris. Il y a rencontré aussi Saint-John Peirce, il y a rencontré Paul Claudel, André Gide, Arthur Rimbaud, pour ne citer que ceux qu'admire
le
plus.
Voilà, tout ce cadre de Saint-Germain-des-Prés,
exactement.
En fait.
Hein. Et évidemment, il ne cite pas tous, mais il ne veut citer que ceux que le groupe des étudiants noirs admire le plus. Dans ce creuset intellectuel parisien, se retrouvent aussi des écrivains et poètes noirs américains, comme le Jamaïcain Claude McKay, l'Américain également Lanson Hugh, et ensuite Price Mars. Ils rencontrent aussi des Antillais, tels que René Maran, Aimé Césaire, Léon Damas et d'autres.
Avec qui, en 1932, il va pouvoir fonder un courant.
J'y reviendrai, ils vont parler de la création d'un journal. Et donc, ils y rencontrent aussi, évidemment, des Africains, dont l'un s'appelle Ousmane Sossé Diop, qui est un homme qui a été notre ambassadeur quelques années plus tard à Washington. Il y rencontre aussi Birago Diop, qui était un écrivain et qui a vraiment marqué aussi la vie littéraire sénégalaise en publiant les contes d'Amadou Koumba, qui sont des contes savoureux. Et si cela vous intéresse, je vous les prêterai aussi. Et donc, Saint-Gor publie à ce moment-là des articles dans la Revue du Monde Noir, Légitime Défense, qu'il n'a pas créé. Il y a collaboré, mais c'est pas lui qui l'a créé. Mmh. Et évidemment, Légitime Défense, et surtout, l'éphémère étudiant noir, où qu'on prétend qu'il l'a créé, il n'a pas créé. Il y a collaboré, ça a duré très très peu de temps. Voilà pourquoi je parle de l'éphémère étudiant noir.
Qu'il a créé avec Aimé Césaire
également.
Avec
Aimé Césaire et d'autres écrivains, et qui avait une vision beaucoup moins rigide des rapports avec l'Occident. Il n'avait pas de rupture, mais enfin, ils ont des rapports beaucoup plus soft. J'ai un peu un terme anglais, mais que je me trouve à l'Académie de France. Bon, donc en 32, donc son cursus continue, il présente un mémoire de diplôme d'études supérieures sur l'exotisme chez Baudelaire. Et en 35, je brûle un peu les étapes, il est reçu à l'agrégation et devient ainsi le premier agrégé d'Afrique en France.
Ce qui est quand même
important, un peu son rêve, parce qu'il voulait être agrégé. Et donc, la première partie de son rêve, il l'a réalisé. Le second, comme je vous dis, était de rentrer au Collège de France, mais il n'a pas eu cette possibilité, parce que, comme il le dit lui-même, il est tombé dans la politique. Bref, lorsqu'il a terminé son agrégation, il a été nommé professeur au lycée Descartes de Tours, où il enseigne jusqu'en 1938. Il prépare conjointement un certificat d'ethnologie à Paris, où il suit les cours de Paul Rivet et Marcel Mauss, des ethnologues bien connus.
Alors voilà, tout en ayant son agrégation, il continue encore les études.
Exactement. Et il continue et arrive la guerre en 39. Il est mobilisé. Il passe 2 ans en captivité et réformé en 42. Il enseigne de retour à Paris au lycée Bastien Berthelot de Saint-Maur-les-Fossés où il avait été nommé en 38 à Saint-Maur-les-Fossés. Puis la guerre est arrivée, il n'a pas eu.
Il était mobilisé.
Il a été mobilisé et finalement, il a dû interrompre son enseignement. Il nous raconte certaines périodes de sa vie quand il se trouvait dans un salag. Il a été secrétaire d'un général allemand et le général allemand l'a rencontré tout à fait par hasard avant qu'il devienne secrétaire. C'est que il avait été dénoncé par quelqu'un qui estimait que Senghor était en train de lire des choses extrêmement curieuses de caractère bizarre. Et alors,
en tant que bizarre.
Alors, finalement, il va le dire au général, ça remonte au général, le général le convoque. Et il dit à Senghor, il paraît que vous lisez des livres assez curieux et avec des caractères très, très particuliers. Senghor lui dit, oui, je lis du grec. Il dit, du grec? Il dit, oui, je lis le grec dans le texte. Et Gérard lui dit, bon, est-ce que vous voulez me montrer votre texte? J'aimerais bien le voir. Effectivement, il y a montré. Et Senghor estimait que quand il était déprimé, qu'il avait des problèmes, la lecture du grec lui permettait de se ressourcer et finalement de se sentir à l'aise. Et c'est comme ça qu'il est devenu donc le secrétaire du général allemand dans ce stalag.
Oui, puisqu'effectivement, pouvoir lire le grec n'est pas donné à tout le monde.
Oui, mais étant dans ce stalag, il avait une réputation prestigieuse. Il en a profité pour faciliter l'évasion de beaucoup de prisonniers. Et lui-même a essayé de s'évader, il n'a pas réussi, il a été repris 2 fois, et donc il s'est tenu tranquille, plus rien fait parce qu'il n'a pas pu s'évader. Et d'autre part, donc, après son service militaire, il a été réformé, on estimait qu'il pour des raisons de santé, il fallait le réformer, il a été réformé.
En 42.
Et donc, il reprend son enseignement, qu'il avait commencé au lycée Bastien Berthelot, et donc, il le termine. En 44, il est nommé l'École nationale de la force d'outre-mer, l'ANFOM, où j'ai été moi-même élève, lui confie la chaire de langue
linguistique,
et civilisation africaine, qui était autrefois occupée par Boris de la Fosse. Bon, son parcours, et je le termine en disant simplement qu'après toutes ces péripéties, Senghor était le député du Sénégal aux élections générales de 1945 et président de la République le 5 septembre 1960. Voilà donc clôturer assez rapidement sa phase, si vous voulez, de son enfance et qui le mène jusqu'à la présidence de la République.
Alors, justement, on va marquer une courte pause, oui. Henri Senghor, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission.
D'accord.
À tout de suite.
Nous baignerons dans une présence africaine. Des tapis étincelants des doux de Tombouctou, des coussins morts, des parfums fauves, des meubles de Guinée du Congo. Nous baignerons dans une présence africaine. Une présence africaine.
Suite de notre focus en compagnie de l'ambassadeur honoraire Henri Senghor, qui est le neveu de Léopold Sédar Senghor. Dans cette deuxième partie de notre émission, Henri Senghor, nous allons pouvoir parler un peu plus en profondeur de la vie intellectuelle de Léopold Sédar Senghor à Paris. Alors, comment ça s'est passé justement ces années de bouillonnement culturel, comme on a pu en parler très rapidement dans la première partie de notre émission?
Dans cette période, Senghor, considère cette 30, période comme étant une période décisive de son existence, parce qu'il a pu rencontrer des écrivains et des pionniers qui ont su apprécier l'Afrique et qui ont pu changer un peu leur vision de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il est important de signaler un fait que Senghor signale. Il parle beaucoup de la révolution de 1889. C'est une date importante dans la littérature française parce que ça correspond à la publication d'un livre de Bergson qui est très important, qui sont les données immédiates de la conscience, et où justement Bergson redonne un certain poids, au fond, ce qu'on pourrait appeler le sentiment. Car jusqu'à présent, on avait vécu avant Bergson dans l'idée de la philosophie d'Aristote, c'est-à-dire donc, si vous voulez, c'était en principe le règne de la raison pure, la raison discursive, et Bergson fait comprendre que la raison discursive est intéressante, mais qu'au-delà de la raison discursive, il y a également la raison intuitive, et que cette raison intuitive n'était pas supérieure, mais qui était d'égale qualité à la raison discursive. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on sent dans cette période-ci, donc, de Senghor, si vous voulez, le livre de Bergson commence à porter ses fruits, et on sent que l'Europe occidentale, la France en particulier, est plus sensible à la vision, à la littérature africaine, à la conception que les Africains se font de la vie, où ils considèrent très important, au fond, les liens que l'être humain entretient avec la nature. Ce n'est plus du tout comme le voulait la culture occidentale, où justement elle est discursive. On, pour prendre un exemple, d'examine un objet, on essaie de le décortiquer et finalement d'en faire un objet. Alors que l'Africain est assez différent dans la mesure, je ne crois pas à une certaine essentialisme africain, mais chaque peuple a ses caractéristiques. Disons donc une des caractéristiques de l'Africain est justement, quand il voit un objet, ce n'est pas de le disséquer, mais c'est de l'observer, de se fondre dans cet objet, de considérer que cet objet devient, il s'inclut dans l'objet, et si vous voulez, il y a une espèce de vie de l'objet qui vient s'intégrer à sa propre vie, et c'est la raison pour laquelle on dit que finalement, le noir est animiste dans la mesure où, derrière chaque objet, il y a, si vous voulez, des forces que lui perçoit et qu'il aimerait pouvoir faire partager aux autres.
Alors justement, cette vision africaine, dès le départ, il arrive à en faire prendre conscience à ceux qui l'entourent.
À ceux qui l'entourent, c'est ce qu'il appelle du reste finalement sa négritude, parce qu'il vous dit la négritude met l'accent justement sur ses valeurs de l'homme africain, sa sensibilité, son ouverture, et chez cet homme africain, le désir est devenu un facteur extrêmement important et peut-être un facteur déterminant de son existence et de sa connaissance de l'univers.
Mais alors, là où nous sommes quand même dans les années 30,
oui.
Monsieur Senghor est à cette époque donc à Paris, au lycée Louis-le-Grand. Est-ce que, comme le dit justement Léopold Sédar Senghor dans ses écrits, est-ce qu'on lui faisait ressentir sa négritude? Autrement dit, est-ce qu'il sentait quand même qu'il y avait quand même des personnes qui étaient hostiles à sa présence à Paris ou à sa présence au lycée Louis-le-Grand? Autrement dit, du racisme.
À Louis-le-Grand, il y est resté 2 ans parce qu'il est arrivé en France donc en 28. Et donc, sur 30, c'est déjà une période de rupture, une période différente de la vie d'étudiante, de la période de 32 jusqu'à la période de la guerre. Senghor, évidemment, était en plein dans la vie parisienne. Il avait commencé déjà à rencontrant les Antillais et fréquentant ces Antillais, il avait participé à différents mouvements de revendication de l'homme noir, situé, donner une place plus juste à l'homme noir. Ceci, déjà, Senghor disait qu'il l'avait senti, non pas quand il est arrivé en France, mais déjà à l'époque où il se trouvait au collège Liberman, les prêtres qui se chargeaient de son éducation, le trouvaient peut-être un peu moins souple que des autres élèves, parce que Senghor déjà avait le sentiment de sa négritude. Il estimait que, certes, il était un peu différent dans la mesure où il croyait à une certaine rationalité, mais il trouvait que c'était pas tout dans l'être humain. Et les curés se rendaient bien compte, puisqu'il disait que pour pouvoir gagner des Africains, les Noirs en tout cas, à la religion catholique, il fallait africaniser dans une certaine mesure, donc l'Église. L'Église donc devait s'intégrer dans l'environnement
dans l'ensemble
africain,
de la culture
de façon
africaine.
À ce que finalement les Noirs puissent y croire. C'est tellement vrai que au moment de Vatican II, également, on a mis l'accent justement sur l'acculturation, sur le fait que l'Église devait s'adapter aux cultures africaines. Donc, on a parlé d'une Église africaine, comme on a parlé d'une Église latino-américaine, comme on a parlé d'une Église asiatique. Le problème se repose à l'heure actuelle de Christ est né. On dit qu'il était juif et dans une religion dans le monde juif, mais il est donné pour tous les êtres humains, et on estime que le message de l'Église ne passera que dans la mesure où il sera transparent dans toutes les civilisations du monde. Et donc Senghor, déjà avait senti cela étant enfant, quand il est arrivé en France, ça s'est accentué parce qu'évidemment, en rencontrant des intellectuels aussi bien antillais qu'africains et français, ils ont eu tendance à développer justement ce thème de la négritude. Tout le monde ne partageait pas ces idées-là, même parmi les Africains. Certains le critiquaient en disant que Senghor était un essentialiste et qu'il considérait l'Africain comme une race à part et qu'au fond, il n'y avait pas de race à part. Et Senghor disait, non, vous ne m'avez pas compris, j'ai pas dit que nous étions une race à part. J'ai dit simplement que chaque peuple a une certaine tendance à faire prévaloir certaines de ses caractéristiques plutôt que d'autres. Nous avons en Afrique un sens très 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 profond de la famille, qui est un peu différent de la conception de la famille qu'on a en Occident, où souvent ça se résume le père, la mère et les enfants. En Afrique, c'est la famille élargie, je dirais presque la famille tribale. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a antinomie entre la famille africaine et la famille occidentale, mais enfin, disons que c'est une caractéristique de l'Africain, et c'est comme vous dites, je ne suis pas pour autant considéré comme, je ne considère pas le noir comme étant une essence particulière, et qui est différente des autres. Il a simplement certains aspects que j'aime bien souligner, en point, c'est tout. Et je pense que la négritude doit prendre en compte, justement, ces différences.
Alors, juste pour revenir sur la question de départ, simplement, est-ce que Senghor avait quand même tous les jours peut-être des petites réflexions qu'on lui faisait sur raciste, tout simplement? Est-ce que ça lui passait au-dessus ou est-ce que quand même ça le blessait? Malgré cette revendication, oui, je suis noir et...
Vous savez, pas seulement en France, mais je pense que même dans nos pays, nous avons vécu des expériences assez difficiles où il y a eu des considérations racistes qui ont joué dans nos pays. Bien souvent, on faisait une distinction entre les Français, les Blancs et les Africains, qu'on aimait bien, mais enfin, que l'on considérait comme étant des gens, non pas de classe inférieure, mais enfin très différents, mais d'une façon assez péjorative. Je me souviens, quand j'étais moi-même au lycée, nous étions en sixième, je me souviens, et il y avait chaque mois le professeur qui passait pour remettre le tableau d'honneur, justement, aux élèves les plus méritants. Moi, comme d'autres Africains, nous avions le tableau d'honneur, et je me souviens, j'étais choqué quand je voyais le professeur venir nous dire un jour, dans ce langage, oui, c'est très bien de faire des études, mais je pense que pour vous, ce serait certainement mieux si vous pouviez, en tout cas, vous tourner plutôt vers l'agriculture, qui est l'avenir de votre pays, et ainsi vous seriez plus utile à votre pays qu'en faisant des études de cette nature-là. Et en nous disant, d'autre part, faut dire aussi que vous occupez des places alors que beaucoup d'autres Français, beaucoup d'autres Européens sont à l'extérieur et n'ont pas assez de place dans le lycée. Il y a eu ce côté-là. Il y a eu d'autres choses.
C'est le proviseur qui vous disait ça.
Il y a eu également d'autres faits, bon, alors beaucoup plus graves. Je me souviens, ma sœur m'a raconté, elle était au lycée, qu'elle était en troisième, elle avait commencé à faire du grec. Et le proviseur, son professeur de grec, était un homme assez particulier, mais assez objectif. Lorsqu'il y a eu donc cette première composition de grec, ma sœur a eu une excellente note, et le professeur était étonné, il ne comprenait pas qu'elle ait eu cette note-là. Et au second trimestre, quand on a fait la composition de grec également, eh bien, il est venu se mettre à côté pour voir si effectivement il n'y avait pas une traduction, il ne comprenait pas. Et on a expliqué ensuite la chose en faisant comprendre que peut-être ce professeur avait des problèmes personnels, étant donné qu'il avait présenté plusieurs fois à l'agrégation et qu'il n'avait jamais été reçu à l'agrégation. Et apprendre qu'un Africain, un Noir, avait été agrégé, ça lui passait à travers la gorge, il comprenait pas, et il voulait se rendre compte, donc il comprenait pas, et donc il avait une suspicion tout à fait naturelle à l'égard de ma sœur qui réussissait et qui comprenait pas. Et parce que pour elle, il aurait dû... Et non seulement il y a eu ça, mais il y a eu même autre chose, un autre Africain qui se trouvait avec ma sœur au lycée, a été exclu de sa classe parce que le professeur disait, nous avons assez d'une fille, d'un noir faisant du grec, l'autre, nous ne pouvons pas l'accepter parce qu'il y en a trop, et donc je ne vous veux plus dans ma classe. Et il l'a exclu de la classe de A, puisque on faisait du latin grec, et lui, donc, est resté chez lui, tout en préparant, malgré tout, pendant les vacances, ses examens de latin grec pour passer de la classe supérieure, mais en restant en A, il a été reçu. Mais donc, ceci pour dire simplement qu'il y a eu effectivement un certain racisme. Pas dire que c'est généralisé, on peut pas dire que tous les Blancs étaient racistes, mais enfin, disons que certes, il y a une certaine frange de la population qui défendait certains intérêts, qui était raciste. Et donc, Senghor, certainement, a dû souffrir aussi en France, parce que ce phénomène-là se trouvait aussi en France. Il y a eu des gens qui étaient assez,
une certaine tendance à
ils appréciaient les Noirs, mais tant qu'ils restaient à sa place, on trouvait qu'ils étaient intelligents, oui, mais enfin, tout avait des limites. Et nous ne sentions pas, à mon arrivée en France, un grand racisme, parce que j'étais au lycée Buffon. Nous fréquentions aussi des élèves également français, des Françaises également. Et je me souviens, on était reçus dans les familles. Les familles nous recevaient vraiment de façon très, très hospitalière, très ouverte. Et souvent, je me souviens, lorsque les parents d'une jeune fille que je connaissais, étaient à déjeuner, il y avait d'autres invités, on disait, ah tiens, ça c'est le copain, l'ami de notre fille Monique. Mais c'était sympathique. Mais peut-être avec l'arrivée peut-être des émigrés, il y a eu beaucoup de travailleurs, etc. Des gens qui se comportaient peut-être pas toujours très bien, ça a suscité un certain phénomène raciste. Et donc, on sentait donc une évolution dans la population française, et surtout ce qui a accéléré peut-être les choses, ça a été la guerre d'Algérie, où beaucoup de pieds noirs sont rentrés et ils ont conservé une certaine hostilité à l'égard non seulement de l'arabe, mais tout ce qui n'était pas français. Donc Senghor a pu souffrir aussi, mais pas beaucoup, parce qu'il le disait, oui, il y a une certaine tendance raciste en France, mais enfin, c'était pas la majorité des Français, ouais. Les Français nous ont toujours bien accueillis.
Alors, pour terminer sur cette émission, Léopold Sédar Senghor, c'était votre oncle.
Oui.
Est-ce que vous aviez des rapports avec lui? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous l'aviez vu relativement souvent? Ou est-ce qu'au contraire, c'était très difficile de le voir parce qu'il avait beaucoup de fonctions?
Non, écoutez, d'abord, Senghor, étant jeune, je ne l'ai pas connu, mais je sais qu'à ma naissance, Senghor a fait un poème pour moi. Il avait fait un poème et ce poème, il l'avait confié à ma mère. Et ma mère l'a laissé par négligence dans un tiroir. Et quelques années après, ce poème avait été mangé par des rats intelligents, et qui finalement, je ne l'ai pas eu. Je crois que le meilleur biographe de Senghor est une femme américaine qui est professeure à Harvard, qui s'appelle Janet Vaillant, et qui donc a publié un livre sur Senghor, la vie de Senghor. Et elle fait allusion également à cela, elle fait allusion aussi à ma mère, au rôle qu'elle a joué auprès de Senghor. Moi, ce qui me concerne, Senghor, j'ai commencé donc à le fréquenter plus sérieusement quand je suis venu en France et où je devais passer mon baccalauréat. Donc, je voyais assez souvent, c'était d'abord aussi, non seulement c'était mon oncle, mais c'était mon parrain de baptême. Et donc, je le voyais assez souvent. Et quand, je me souviens, j'étais au lycée, arrivé à cette période à Paris où l'on se divertissait beaucoup, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne travaillais pas, effectivement. J'allais assez souvent dans les boîtes de nuit. Et je me suis fait coller à mon bac à Paris. J'étais au lycée Buffon, je me suis fait coller à mon bac. Et en juin comme en octobre. Et Senghor m'a appelé en me disant, écoute, quand tu es arrivé à Paris, je savais que tu dansais très très peu. Maintenant, je vois que tu danses beaucoup de jazz. C'est donc que tu t'es entré dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas une chose que tu dois faire, étant donné que tu n'es pas boursier. Tu es au frais de ton père. Il serait donc tout à fait normal que tu lui donnes satisfaction. Donc, moi, je t'ordonne de quitter Paris et d'aller faire des études dans une ville de province qui est beaucoup plus calme. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Montpellier et où j'ai passé mon baccalauréat. Et je me souviens, quand je suis revenu à Paris, au bout de la deuxième année, Senghor me reçoit chez lui. Il me dit, oui, toi, je suis content que tu aies été reçu à ton baccalauréat. Du reste, j'avais dit à ton père, parce que j'avais dit, surtout ne dis rien à mon père, parce que c'est lui qui peut me dire. Il me dit, oui, mais j'ai dit à ton père, c'est pas grave, je suis certain qu'il va se reprendre, etc. Je lui dis, ah bon. Bon, j'ai eu raison. Et ensuite, après cela, Senghor m'a eu comme élève. Quand j'ai passé le concours de la Cour de la France d'Outre-mer, c'était mon professeur de civilisation et de culture langue africaine. Oui. C'est une anecdote que je vous raconte parce que Senghor était un homme assez strict, très ponctuel, dans ses rendez-vous en particulier, et il m'est arrivé une fois de lui demander de me prêter de l'argent. Et il me disait en souriant, oui, tu viendras, mais viens avec ton chéquier. Alors, je venais avec mon chéquier, alors il me dit, je t'avance de l'argent, mais tu vas me faire un chèque. Que je toucherai à la fin du mois, qui sera l'équivalent du montant de ce que j'ai donné. Bon, alors j'ai dit bon, d'accord, je suis venu, ça a été fait comme ça, et j'ai dû le rencontrer une autre fois. Il m'a fait ce rendez-vous une autre fois chez lui, à 8h, je suis arrivé, il était 8h05. Et j'ai sonné, sonné, sonné. Finalement, le garçon a ouvert et m'a dit, le président te fait dire de venir demain.
Il dit en retard.
J'ai dit, mais je vais abréger. Il dit, non, 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 il te dit de venir demain. Le lendemain, je suis arrivé scrupuleusement à 8h05. J'ai sonné, 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 personne ne répondait. Et vous voyez comment la porte s'ouvre. Et c'est Senghor lui-même qui ouvre, il me dit, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure.
Effectivement, je crois qu'il est connu pour sa ponctualité. Hein.
Senghor était connu pour sa ponctualité. Quand j'étais son ambassadeur, je me souviens, en Italie, lorsqu'il devait venir en visite officielle, il me disait, écoute, j'aimerais bien savoir à quelle heure je dois arriver, parce que je suis un homme très ponctuel, et je ne peux pas faire attendre mes hôtes. Et je lui indiquais donc l'heure à laquelle je devais arriver. Souvent, la visite officielle commençait vers 9h30, 10h. Je lui ai dit, écoute, c'est un peu tôt, tu sais, on commence ici à 9h30. L'essentiel, c'est que tu me dises à quelle heure je dois arriver. Alors, je dis, bon, si tu n'es pas arrivé à 9h30, ça ira très bien. À 9h25, les roues de son avion touchaient le sol de Fiumicino à l'époque. Et les Italiens étaient surpris parce qu'on n'avait jamais vu un chef d'État aussi ponctuel. Et lorsqu'il se trouvait en visite officielle dans d'autres endroits également, il avait un chef de protocole, mais j'étais le chef de protocole dans la où j'étais l'ambassadeur. Je connaissais l'usage. Il me dit, bon, à quelle heure on doit partir? Je dis, bon, on a le mot, à quelle heure on doit partir? Continuez votre tard. Je dis, bon, on doit partir à telle heure. À cette heure déterminée, eh bien, ça aurait été prêt. Je me souviens avoir été en poste au Brésil où il était venu, en visite officielle également. Et c'est un pays agréable, un pays où on danse. Et beaucoup de membres de sa délégation avait passé la nuit dans les boîtes de nuit.
Oui.
Et donc, le matin, quand on arrivait chez Senghor pour partir, bon, il n'était pas là. Et Senghor me disait, j'ai dit, écoute, attendons, je n'ai pas à attendre. Ils savent très bien que j'ai rendez-vous à telle heure, je pars. On s'en va, t'occupe pas d'eux. Ils se débrouilleront, mais ils s'occupent pas, ne t'occupent pas d'eux.
Il est donc parti sans eux.
Ah, il partait sans eux, oui. Il partait sans eux. Et les gens arrivaient à le retrouver. Mais lui, il disait rien. Mais il n'avait pas besoin de leur faire des reproches. Il savait que Senghor aimait qu'on arrive à l'heure et ça ne se reproduisait plus. Ceci pour dire simplement que j'ai été quand même son ambassadeur dans différents pays. D'abord, j'étais bon son élève, j'étais son ambassadeur. J'ai scrupuleusement suivi ses instructions.
En même temps, je pense que c'est quelqu'un, comment dire, qu'on était obligé de suivre.
On était obligé de suivre. Et puis d'autre part, il avait quand même ce côté. On aimait bien aussi parce que c'était un homme qui avait beaucoup beaucoup de charisme, un homme qui était très ouvert, très généreux et
impressionnant aussi.
Impressionnant aussi. Impressionnant, c'est lui qui me disait, tu sais, dans ma vie, j'ai été impressionné par deux hommes importants de mon existence. Alors, je dis, mais lesquels? Il me dit d'abord, Haïlé Selassie, l'empereur d'Éthiopie. Il me dit, lorsque vous regardez, vous avez l'impression que son regard vous vrille l'estomac. Vous vous sentez pris jusqu'aux entrailles. Et quelqu'un d'autre également, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, et il avait aussi un charisme étonnant, c'est Général de Gaulle. Il me dit que lorsque nous avions des réunions au Conseil des ministres, souvent, on restait debout. Et il me disait, De Gaulle, donc, était là au milieu de la salle. Et il nous disait, venez, monsieur, venez. Il dit, venez, faisant le geste. Il me dit, mais on suivait automatiquement. C'est le geste à main. On le suivait. Mais il me dit, j'ai jamais vu ça. C'était un homme extrêmement impressionnant. Et tout le monde suivait. Bon. Ceci simplement pour vous parler un peu de l'homme, de la façon dont il se comportait, sa simplicité. Et ceci nous amènera à voir aussi cette même simplicité, cette ouverture dans la conception qu'il avait de la femme également.
Alors justement, Henri Senghor, on termine ici notre focus dédié donc à Léopold Sédar Senghor sur son enfance, ses études et puis les rapports que vous avez entretenus donc avec votre oncle. On se retrouve un peu plus tard dans une autre émission intitulée Éclairage sur laquelle nous pourrons aborder plus en détail le rapport aux femmes entre Léopold Sédar Senghor et les femmes. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.